Agar, une femme libérée par Dieu, c'est le thème de la conférence de Maïté Iratsoki, licenciée en théologie, conférence enregistrée le 2 mars 2024 lors des samedis de l'abbaye de Belloc, proposée par Radio Lapourdi et la communauté de Belloc. Agar, une femme libérée par Dieu, Maïté Iratsoki.
Bonjour, je suis presque intimidée, mais je suis très contente de vous parler de cette personne que j'ai découverte. Alors, comment j'ai découvert cette personne? Parce que quand on fait des études de théologie, à l'antenne de théologie, il est demandé de faire un mémoire pour clôturer la formation, enfin, au moins la licence. Et il nous est demandé de choisir un sujet et qui soit un sujet de recherche. Une des difficultés quand même, hein, de trouver le sujet pour le développer. Et j'ai choisi de travailler sur quelques femmes de la Bible qui ne sont connues que par un fait de sexualité. Je me suis dit quand même, une femme, ce n'est pas que un sexe et ce n'est pas que une sexualité. Mais j'ai commencé à regarder quelles étaient les femmes. Donc j'ai découvert un certain nombre de femmes. Et puis, j'ai commencé par la première, chronologiquement dans la Bible, qui a une histoire de ce genre-là, et qui s'appelle Agar. Alors, je ne vais pas vous lire tout le travail de recherche qui a été mené, mais une partie, enfin, le plan, ça va être celui-là. On va découvrir cette personne, cette dame, au fur et à mesure de ce qu'elle vit. Alors, vous avez dans la feuille qui vous a été distribuée deux chapitres, parce qu'on va trouver cette personne dans deux chapitres de la Genèse. Au chapitre 16, on la trouve, et ensuite, on la redécouvre au chapitre 21. Donc, 16 et 21. Donc, quand j'ai commencé cela, je me suis dit, tiens, comment je vais développer ce sujet ? Donc, l'intérêt est ainsi né de savoir qui sont ces figures féminines qui sont souvent réduites ou partiellement ou totalement à leur identité sexuelle. Il y a Agar, il y a Suzanne, il y a Anne, la femme de Potiphar, la femme adultère, même celle que l'on dénomme la Samaritaine, dont nombre de commentaires et homélies mettent l'accent sur le fait qu'elle a eu 5 maris, sans parler de Marie-Madeleine, devenue la patronne des femmes prostituées. Ce sont quelques-unes de ces figures bibliques. Et puis, on s'arrête là, dans la rencontre de ces personnes. Le désir d'aller à la rencontre de ces personnes, d'entendre leur voix, de découvrir ce qu'elles veulent bien nous montrer d'elles, est à l'origine de ce travail de recherche. Et dans la littérature, dans l'iconographie, dans les commentaires religieux, elle est, Agar, ou bien la femme répudiée par le père de son enfant, comme dans le tableau de Vernet ou celui de Camille Corot, ou bien elle est la mère d'Ismaël, ancêtre de tous les musulmans, lesquels en ont fait une princesse, ou bien c'est la servante esclave, enceinte, orgueilleuse et arrogante, ou bien c'est la mère de substitution. Donc Agar, c'est un peu tout ça, et c'est le cumul de tout cela qui fait sa personne. Or, qui est-elle dans la Genèse? C'est-à-dire, que dit le texte? Et son histoire est concentrée dans deux chapitres. Dans le chapitre 16, comme on vient de le dire, et une partie du chapitre 21. Et puis, il y a aussi le fait que Paul, saint Paul, en a fait une allégorie. Mais je ne reviens pas là-dessus, sauf si c'est un sujet qui vous intéresse. Et il en a fait l'allégorie de la femme esclave, en opposition à la femme libre. Et je me suis dit, mais elle a fait une rencontre dans le désert, et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Alors, qui est d'abord Agar? Elle est servante chez Sarai et Abraham, chez le couple. Eux, ils ont quitté leur pays, ils sont allés en Canaan. Ensuite, ils ont eu à souffrir de la famine. Ils sont allés en Égypte. En Égypte, Abraham a présenté Sarai, sa femme, comme étant sa sœur. Cela a été mal vu par les Égyptiens. Pharaon lui a demandé de partir, mais il n'est pas parti sans rien. Il est parti avec du bétail, avec des biens, avec des possessions, et il est parti avec des domestiques, dont Agar. Agar est donc une femme égyptienne qui est servante chez le couple Sarai-Abraham. Il se trouve que Abraham avait reçu de Dieu la promesse qu'il aurait une grande descendance, une multitude. Le temps passant, Sarai, voyant qu'elle était stérile, elle s'est dit « il faut agir ». Et elle se dit « eh bien, je vais demander à ma servante de faire un enfant ». Le texte dit ceci. Sarai, sa femme, prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. On voit tout de suite que la répétition des possessifs, là, sa servante, sa femme, pour la donner comme femme à Abraham, son mari, il y a cette répétition des adjectifs possessifs qui signale que de la part de Sarah, eh bien, cette personne est un objet à sa disposition. À aucun moment, Agar ne va parler. À aucun moment, on ne va voir quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'elle pense, quel est son point de vue. Il n'y a rien du tout. Il n'est attendu d'elle ni adhésion, ni refus, seulement la soumission à une décision prise ailleurs. Personne ne s'adresse à elle directement, ni Sarai, ni Abraham. C'est une femme étrangère, elle est servante ou esclave, les deux mots existent. Elle est un bien appartenant à un couple qui veut avoir un fils. Elle est une sorte de prolongement du corps de sa maîtresse, une matrice extérieure disponible. Donc au départ, Agar, c'est cela. Il est donc possible de la prendre, de la donner et d'être un objet qui change de place. Il faut savoir que c'était une coutume pour les femmes à ce moment-là, à cette époque-là, même beaucoup plus tard aussi, que les femmes stériles en désespoir de cause fassent appel au droit coutumier du Proche-Orient en ayant recours à des mères de substitution. C'est comme ça qu'on les appelait. Et c'est ainsi qu'il est dit « Va donc vers ma servante, peut-être que par elle, j'aurai un fils ». Donc, c'est vraiment une mère de substitution, c'est-à-dire elle va avoir un enfant, mais elle ne sera pas mère puisque ce serait Sarah qui serait la maman. Agar est donc la possibilité pour sa maîtresse d'être mère et de réaliser ainsi la promesse que Dieu a faite à Abraham en lui disant « Tu auras une descendance nombreuse ». C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 15. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le texte dit « Abraham vint vers elle et elle fut enceinte ». Les expressions qui sont dans la Bible pour annoncer un enfant, c'est une expression qui est utilisée de manière fréquente. Agar change donc de place dans la configuration, puisque Sarah lui dit « Sarah prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à son mari ». Ça veut dire qu'elle devient donc la deuxième épouse d'Abraham. Elle change donc de position. Elle n'est plus uniquement la servante, elle devient la deuxième épouse. Elle accède par là à une existence de femme et non pas d'une étrangère servante. Et elle va devenir mère, ce qui fait qu'elle aura une importance grandissante. De façon tout aussi laconique que son changement de position par rapport au couple, Sarah, le texte annonce qu'elle est enceinte. Il dit, il alla vers Agar qui devint enceinte. Cette rapidité la conforte dans son nouveau positionnement, dans son nouveau statut. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle prend de l'ascendant sur Sarah. et elle est fière d'être enceinte, donc d'être future mère, ce qui va provoquer chez elle un changement d'attitude. Elle ne va pas regarder sa maîtresse uniquement comme sa maîtresse, et à la limite, elle ne va même plus la regarder comme sa maîtresse, elle va la regarder dans une position qui est plus haute, si j'ose dire, comme on dit l'expression en français, elle va la regarder d'un peu plus haut. À ce moment-là, Sarah, elle vit très très mal cette situation. Et elle dit à son mari, eh bien, cette servante n'a pas l'attitude qu'elle devrait avoir par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que tu es toi. Donc, choisis entre toi et elle. Et Abraham lui dit, eh bien, c'est ta servante, fais ce qu'il te semble bon. Le texte dit à ce moment-là, eh bien, que Sarah la maltraita. On arrive donc à une situation où les deux femmes vont être en conflit, l'une parce qu'elle a changé de statut et qu'elle va devenir mère, et l'autre qui reste stérile, mais qui est l'épouse d'Abraham. Sa grossesse fait prendre conscience à Agar que les femmes ont même titre que toute femme. C'est ce qui va faire qu'elle va modifier son regard. Ce positionnement est révélateur de la contrainte insupportable qui a été faite aux femmes. Pour exister, il faut être mère. Et le fait d'être mère peut aller jusqu'à renverser le positionnement domestique, voire social. Agar, la servante, a pris le dessus sur sa maîtresse. Il y a une sorte d'ascension qui est à ses yeux, qui est une forme de libération. Est-ce qu'elle était esclave ? On ne le sait pas trop, même si le texte utilise ce mot-là. Ça peut être aussi une forme de revanche sur sa vie. Quelle était l'origine sociale au départ de Agar ? Le texte ne dit rien. Ça peut être aussi une reconnaissance de sa fécondité par une bénédiction divine versus la stérilité de Sarah. Le narrateur se contente de changer le positionnement et se contente de constater les faits. Or, il est bien dit à ce moment-là que la servante doit rester à sa place de servante. Elle n'a aucun droit de supplanter sa maîtresse. Dans le livre des Proverbes, il est même écrit ceci. Voici trois choses qui font frémir un pays et quatre qu'il ne peut supporter. Deux points. Un esclave qui devient roi, c'est intolérable. Un fou qui se gave, c'est tout aussi insupportable. Une mégère qui se marie, ça ne se fait pas. Et une servante qui supplante sa maîtresse, c'est interdit. Donc, on est dans cette situation-là. Agar, elle va subir la réalité de son état. Elle est servante. Et à ce titre, elle est à la disposition du bon vouloir de sa maîtresse. Là non plus, quand sa maîtresse la maltraite, le texte ne dit rien sur sa pensée, ni sur sa voix, ni sur son désir. Elle subit aussi la réalité de sa culture. Être mère change le regard des autres, car cela lui confère un certain prestige et modifie son propre regard sur la maîtresse. Donc, on est bien dans cette situation conflictuelle où les deux femmes vont s'opposer parce que l'une est reconnue, tandis que l'autre change de statut et change de positionnement. Et elle se trouve dans un cas qu'elle ne maîtrise pas pour savoir comment faire, quelle est la politique à mener dans cette situation-là. Puisque Sarah la maltraite, Agar, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'enfuit. Elle s'enfuit dans le désert, dans la direction de Shur, dans la direction de l'Égypte. Elle est égyptienne, donc c'est comme si elle reprenait un peu la route dans la direction de chez elle. Il est indiqué, l'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Shur. On a donc un lieu qui est indiqué de manière à la fois précise, près d'une source. Et sur la route de Chour, on a aussi la direction. Les gens locaux doivent connaître le lieu, car les nomades qui passent par le désert situent parfaitement les sources. C'est sûr que quand on va dans le désert, la première chose à connaître, c'est le lieu où se trouvent les sources. En prenant la phrase à l'envers, si je peux dire, on est en direction d'un lieu qui a un nom, Chour. Et la note de la tobe nous dit « Chour, aux confins de l'Égypte, peut-être le mur, ça peut être le sens du mot, construit par les Égyptiens contre les incursions des Sémites. Cette route est connue pour sa destination et aussi pour sa source, qui veut dire celle qui est. » La description de l'ange du Seigneur, ça se présente un peu comme un zoom photographique, c'est-à-dire que là, dans le texte, l'ange du Seigneur, la phrase dit « l'ange du Seigneur la trouva près d'une source », c'est comme si l'ange du Seigneur était là dans le désert et qu'il faisait un zoom parce qu'il a vu quelqu'un, ou bien tout d'un coup, il voit quelque chose de différent. Donc, c'est comme une relation photographique qui est établie pour créer cette situation-là. Le narrateur signale cette présence comme quelque chose de tout à fait naturel, comme une circonstance ordinaire, donnant l'impression que l'ange du Seigneur est chez lui. C'est ce qui lui permet d'envisager une conversation avec Agar. Elle est dans le désert, qui est un lieu de solitude, d'aridité, d'austérité, tel qu'on se représente spontanément le désert. La Bible indique aussi plusieurs significations de ce désert. Pour David, c'est un refuge, on le trouve dans le livre d'Isaïe. Pour les Israélites qui souffrent dans le désert, c'est un lieu de révélation, et on le trouve dans le livre des Nombres. Pour d'autres, notamment pour Moïse et Aaron, c'est un lieu de célébration, c'est un lieu d'accueil des dons de Dieu. Donc, Agar se trouve dans ce lieu, un désert, qui a une importance considérable, mais qui va être vécu selon sa propre histoire, selon le moment dans lequel se trouve le personnage. Agar se trouve dans ce lieu qui peut être un lieu d'errance, un lieu de mort, un lieu de non-retour, mais aussi un refuge où on s'abandonne. Agar s'est arrêté près d'une source. Il n'y a pas de vie sans eau. Si Agar s'est arrêtée près d'une source, c'est que la vie a place en elle. Elle ne veut pas mourir. Elle a fui, sans savoir avec précision où aller. Elle s'en alla errer. Mais elle s'est réfugiée dans le désert et elle a arrêté sa course près d'une source. Elle veut donc vivre. Qu'est-ce qui se passe avec l'ange du Seigneur, puisqu'elle est là et que l'ange du Seigneur la voit? Il y a une sorte de conversation. L'ange du Seigneur lui pose la question en l'appelant par son nom, et comme son ascendance n'est pas connue, c'est son appartenance qui va établir la précision identitaire. Il dit « servante de Sarai ». Il n'y a donc pas de confusion. L'ange du Seigneur la connaît, et c'est la statue, donc la située. Il y a donc une relation qui est établie. Il peut la saluer avec toute la considération qui s'impose, car elle est identifiable et identifiée. Agar, servante de Sarai. La salutation, elle est personnelle, et c'est bien à elle qu'il adresse la parole. Il pose deux questions. D'où viens-tu? Où vas-tu? Question, je dirais, de nomade à un autre nomade, de tout voyageur à un autre voyageur, pour entrer en relation et pour débuter une rencontre sans autre protocole. Le narrateur utilise le style direct. Où vas-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? C'est la première fois qu'on parle à Agar directement. C'est la première fois qu'on s'adresse à cette femme en direct. Et le questionnement est à la forme active et non à la forme passive du style « qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Elle n'est pas victimisée, non ? C'est « d'où viens-tu et où vas-tu » Ce sont les deux questions fondamentale du sens de la vie. Et cette question interroge sur le décalage entre deux réalités paradoxales que vit la même personne. Comment se fait-il qu'une servante, qui a donc une fonction, qui a une relation, qui a un lieu de vie, se retrouve seule, perdue dans le désert? Quelle est la source de cette situation? Quel est le but de sa décision? Et ici, la question de l'ange du Seigneur, c'est le niveau de liberté qui préside au choix qui intéresse l'interlocuteur divin. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves, Agar, servante de Sarai, dans cette situation? Quelle est la réponse de Agar? Elle dit « Je fuis de devant Sarai, ma maîtresse ». Ce sont les mots qu'elle prononce. Elle n'a pas besoin d'en dire davantage, puisque l'ange connaît Sarai, ce qui fait que le mot important, c'est « je fuis ». Je fuis d'où? De devant Sarai. Ce n'est pas un lieu géographique, de devant Sarai. Elle répond à la première question par « je fuis » et elle indique le tracé entre là où elle était et là où elle est maintenant, de devant Sarai. Elle n'explicite pas son choix. De manière aussi précise que laconique, elle a répondu aux deux questions d'une façon inattendue toutefois. Parce que là d'où elle est partie, je fuis de devant Sarai, c'est une personne qu'elle a quittée, c'est une relation. Elle a quitté un conflit, elle a quitté un service, elle a quitté un lien entre deux personnes. Donc le lieu de son départ, c'est celui-là. Ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est le lieu d'une situation. C'est le lieu d'un conflit entre deux personnes. Et elle a fui les faces de sa maîtresse, comme dit le texte, c'est-à-dire de devant. Elle ne peut plus rester devant, en face de sa maîtresse. Son point d'attache et ce qui fait son identité, c'est le lien qu'elle a entre elle-même et Sarai, sa maîtresse. Que lui dit l'ange du Seigneur? Il emploie deux verbes. Retourne à l'impératif. Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. Quand on lit ce texte, on peut ne pas s'attendre à ces deux verbes. Le premier, c'est retourne. Ce verbe va la renvoyer au lieu de son identité. Retourne vers ta maîtresse. L'ordre de retourner est une prescription bénéfique pour son destinataire. Et le vœu de Dieu est un souhait de paix. Retourne dans la Bible, c'est très souvent pour retourner vers Dieu, retourner vers son identité profonde, retourner vers le lieu de sa liberté. L'ordre de l'ange du Seigneur a la même signification et poursuit le même but que lorsque Michée écrit « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme des moutons qui n'ont point de berger. » Le Seigneur a dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne chez lui en paix. » Quand on parle de paix, c'est toujours avec la paix du Seigneur. Donc « retourne », c'est parce que c'est dans cet endroit-là, c'est-à-dire avec Sarai, qu'elle aura la paix. Le deuxième verbe, c'est « plie-toi » ou « soumets-toi ». Les deux traductions, même d'autres, peuvent être tout à fait recevables. En français, quand on dit « soumets-toi »,« soumets-toi sous ses mains », c'est dit le texte, là, il y a une sorte d'allitération qui indique bien qu'elle doit prendre sa position de servante qui est sa réalité à elle. Mais cette expression a aussi un deuxième sens, qui est le sens de la protection due par le dominant sur les dominés. Soumets-toi sous ses mains, ça veut dire qu'on se met dans la protection ou sous la protection. Quand on se met sous la protection d'un arbre ou bien d'un abri, donc soumets-toi sous ses mains, il y a aussi ce sens de la protection. Ça vient renforcer cette idée-là quand l'ange du Seigneur lui dit « sous ses mains ». Donc ces deux impératifs mettent le cadre de la réalité, elle est la servante de Sarai, et invitent Agar à regarder la relation avec elle, avec Sarai, non comme un lieu de conflit, mais comme le lieu où deux personnes ont des rôles différents et reliés. Elles ont une relation d'interdépendance et non une relation d'opposition. Les deux impératifs invitent aussi Agar à se dire à elle-même si elle subit la réalité de sa condition sociale et personnelle ou si elle choisit de vivre cette réalité. C'est-à-dire, je dois repartir chez ma servante avec qui je suis en conflit. Est-ce que j'y vais parce que je sais que là est ma place ou bien est-ce que j'y vais à contre-cœur? Donc, il faudra qu'elle fasse ce choix pour avoir la paix. Qu'est-ce qu'elle doit faire et comment elle doit agir? Quel est le choix qu'elle doit poser? Est-ce qu'elle va obéir à l'ange du Seigneur ou bien est-ce qu'elle va rester dans le désert? Retourne et plie-toi sont les mots qui marquent que la vraie liberté se trouve dans le choix que Agar va poser en toute conscience, en toute responsabilité et en toute connaissance. Donc ici aussi, l'ange du Seigneur va convoquer sa liberté intérieure, sa liberté de choix, son discernement. L'ange du Seigneur continue. Et quand il lui a dit « Retourne chez ta maîtresse et soumets-toi sous ses mains ou plie-toi », l'ange du Seigneur continue en disant « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter ». Alors quand je suis arrivée à ce verset, je me suis dit « Il faut que je vérifie les traductions parce que normalement il n'y a que Abraham qui a eu cette promesse, qui a reçu cette promesse ». Donc je suis allée regarder dans les autres Bibles et c'était bien ça, et dans le texte original aussi. Donc Agar a reçu cette promesse aussi. Il n'y a pas que Abraham qui a entendu ce verset. Donc le narrateur crée cette surprise puisque un écho on a dans Genèse 13, « Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre au point que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. » C'est Abraham qui a entendu ça. Eh bien, Agar entend « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter. » Allons bon. Dieu s'engage donc auprès d'Agar. Il s'engage personnellement face à une personne en vis-à-vis. Il s'engage dans sa parole en disant qu'il fera demain ce qu'il dit aujourd'hui. « Je multiplierai ta descendance. » C'est une promesse qui revêt la puissance de Dieu. Et cette forme emphatique de la tournure souligne que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Agar est bien en présence de Dieu, de l'Éternel, du Tout-Puissant, puissant et humble. C'est le double message de l'ange du Seigneur à Agar. Le retour chez sa maîtresse pourrait être source renouvelée de douleur, mais Agar a une perspective heureuse, celle de la descendance innombrable de l'enfant qu'elle porte, engendré d'Abraham. La parole qui lui est adressée lui ouvre un horizon de sens et un appui sûr. Voici que tu es enceinte et tu vas enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Ismaël. Quand j'ai entendu ce verset, cela fait écho à un verset que l'on connaît de l'évangile de Saint-Luc, qui s'adresse, l'ange Gabriel qui s'adresse à Marie. Et là aussi, dans ma recherche, je me suis dit, là, tu dois faire erreur, parce que je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un d'autre que Marie avait reçu cette annonce. Je me suis cru hérétique. Et là, j'ai failli arrêter mon devoir. Puis je me suis dit non, ben, ce qui est écrit, je vais continuer. Et à ce moment-là, je suis allée voir le texte de Saint-Luc. Et puis, je vous le présente là en comparant les deux textes, c'est-à-dire l'annonce qu'a reçue Agar et l'annonce qu'a reçue Marie. Alors, à Agar, il dit « Voici, car le Seigneur a perçu ta détresse. Tu es enceinte et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël. Véritable âne sauvage, cet homme. Sa main contre tous, la main de tous contre lui. À la face de tous ses frères, il demeure. C'est ce que lui dit l'ange, c'est ce que dit l'ange à Agar. Et à côté, nous avons, il dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Donc, nous avons la même entame d'annonce, la même réalité du fait qu'elle doit donner un nom à son fils, comme Marie plus tard. Évidemment, la destinée des deux personnages, des deux personnes, est différente. Mais nous avons la même structure. Ce rapprochement fait ressortir la place particulière occupée par Agar. Elle est issue de la prestigieuse nation égyptienne. Elle est issue de ce peuple avec lequel Israël entretient des relations ambivalentes. Terre nourricière, refuge en cas de famille, et aussi terre d'oppression qu'il faudra fuir. Comme Marie plus tard, elle reçoit la mission de donner un nom à son fils, Ismaël, ce qui signifie « Dieu entend ». Agar est la seule femme de l'Ancien Testament qui reçoit la promesse d'une descendance nombreuse. N'est-elle donc pas matriarche, bien que servante et égyptienne ? Elle est aussi celle qui est en relation directe avec Marie par cette annonce d'une forme équivalente. Alors c'est sûr que lorsque je découvre cela, mon intérêt pour Agar s'est accentué. Car le Seigneur a perçu ta détresse, lui dit l'ange. Le projet de Sarai qui avait dit à son mari, va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils, avait provoqué chez Agar, certainement, une sorte de confusion, qui avait provoqué son changement d'attitude par rapport à Sarah et le sentiment de la détresse puisqu'elle avait fui. Le narrateur découvre à Agar et au lecteur le Dieu consolateur, celui dont le regard bienveillant sait voir toutes choses avec justesse. Et on aura ces trois versets dans le programme de la vie d'Agar et je vais faire le lien avec deux autres femmes qui ont aussi ce lien de vie. D'une part, Ève. Ève est la première femme qui enfantera, puisqu'il est dit « L'homme appela sa femme du nom d'Ève », c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. C'est dans Genèse 3. Ici, Agar, elle reçoit la confirmation de la multitude qui naîtra d'elle. « Multiple, je multiplierai ta descendance », c'est dans ce chapitre. Et Marie sera la mère de Jésus qui est chemin, le chemin et la vérité et la vie, c'est dans Jean 14. Une fois qu'elle a entendu tout cela, Agar, elle a un cri de reconnaissance. Elle dit « Toi, Dieu, me voyant ». Elle parle directement au Seigneur, mais elle parle à lui en disant qui il est. C'est le travail que font les théologiens. Les théologiens, ils parlent de Dieu. Eh bien, Agar, elle fait la même chose. « Toi, Dieu me voyant, ou bien tu es Dieu qui me voit. » Il y a plusieurs traductions, mais on tourne autour de cette idée qu'elle constate que le Dieu qui lui parle, c'est aussi le Dieu qui la voit, elle, et qui la voit, elle. Et elle s'interroge. Est-ce que aussi j'ai vu après celui qui me voit ? C'est-à-dire, elle voudrait être à voir, enfin, elle s'interroge de savoir si c'est vraiment Dieu qu'elle a vu et qu'elle a entendu. Et cette interrogation-là va donner le nom du puits où elle se trouve, puisque c'est l'Aroy, hein, l'endroit où Dieu m'a vu, où Dieu m'aura vu, et ce nom de puits va demeurer. Et c'est un cri qu'elle pousse comme une exclamation. C'est un cri de joie, certainement, mais aussi d'étonnement. Ai-je bien vu ici celui qui me voit ? Il y a plusieurs traductions de ce tout petit bout de phrase. Ça montre bien que c'est difficile à traduire et que l'étonnement de Agar est aussi l'étonnement que tout chrétien ou tout lecteur de la Bible peut avoir. Mais cette exclamation révèle que rien ne peut être caché à Dieu. Dieu voit même au-delà de ce qui est visible aux yeux et au-delà des apparences. Le regard de Dieu ne s'arrête pas à la surface des choses et des personnes, mais rejoint dans la profondeur et dans la totalité de l'être. Et elle va avoir cette confirmation, puisque Dieu la confirmera dans ce qu'elle dit, en parlant de ce puits, et où le nom de ce puits va demeurer à travers les siècles et à travers les âges, pour confirmer qu'effectivement, là, elle a rencontré Dieu, et que Dieu l'a vu, et qu'elle a vu Dieu. La dénomination du lieu va confirmer cette rencontre avec le Seigneur. Une fois qu'elle a dit cela, elle repart chez elle, et ce qu'il est dit, c'est que le narrateur dit simplement que Abraham, que l'accouchement a lieu. Agar enfanta un fils à Abraham, il appela Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. C'est tout. On aimerait savoir comment s'est passé le retour. Ben, il n'en est rien, on ne le sait pas. On peut l'imaginer si l'on veut, mais on ne le sait pas, le texte ne dit rien. Simplement, l'enfant est né et Abraham lui donne le nom, puisque c'est le père qui donne le nom à l'enfant. Le narrateur condense ici l'expérience qu'Agar vient de vivre dans le désert, à savoir sa rencontre avec Dieu et la réalisation de la commande faite par Sarai, obtenir un fils par elle. Dieu lui donne son existence personnelle dans cette histoire-là et elle peut repartir chez Sarai, mais avec une réalité nouvelle, puisque d'une part, elle sait que ce fils-là vient de Dieu et que d'autre part, elle aura une multitude nombreuse comme descendance. Et on passe au chapitre 21. Dans le chapitre 21, qu'est-ce qui se passe ? Alors, entre les chapitres 16 et 21, il y a toute une série d'anecdotes qui se déroulent. Et dans le chapitre 21, on retrouve Agar et on retrouve son fils Ismaël qui va avoir 14 ans à peu près, selon les différents récits que l'on a. Et entre-temps, Isaac est né, c'est-à-dire entre-temps, Sarah est enceinte, elle accouche, et son fils s'appelle Isaac. Isaac, ça veut dire rire, puisque ça vient du rire de Sarah, lorsqu'elle avait entendu par les trois voyageurs qu'elle aurait un enfant alors qu'elle était à ce moment-là déjà très âgée. Donc Isaac est né et Abraham fait une grande fête, il organise une grande fête pour marquer le sevrage de son fils Isaac. C'est une fête, donc tout se passe bien. Sauf que Sarah, qu'est-ce qu'elle constate ? Que les deux enfants, c'est-à-dire son fils à elle, Isaac, et Ismaël, le fils d'Abraham, eh bien, ils s'amusent, ils rient ensemble, et elle les voit en train de s'amuser, et elle dit tout de suite, chasse l'enfant de la servante. Chasse l'enfant de la servante et la servante. Donc elle donne un ordre à Abraham, parce qu'elle voit les deux enfants en train de rire, ça veut dire que les deux enfants, je dirais, s'entendent bien, mais elle donne cet ordre-là de manière très précise très brutale même, en indiquant « car le fils de cette servante ne doit pas hériter avec mon fils Isaac ». C'est là qu'on peut bien dire que Sarah n'a pas pris Ismaël comme son fils, puisqu'ici on voit bien qu'elle parle du fils de la servante, et elle ne confond pas avec mon fils Isaac, dont les deux choses sont très 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 différentes. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler pour elle, comme il y en a qui le disent, de mère porteuse, pas du tout. Elle n'a pas porté l'enfant pour quelqu'un d'autre, non, non, non. Ça a tout le temps été son fils, et Sarai n'a pas transformé cette relation en faisant de Ismaël son fils. Donc les deux sont distincts au point qu'elle considère que le fils qui est né de la servante ne peut pas hériter d'Abraham. Abraham est contrarié par cette commande, si je peux dire, par cet ordre, mais l'ange du Seigneur, Dieu lui dit « Non, non, fais ce que Sarah te dit ». Puisque, et il continue en disant, puisque je donnerai aussi à la servante une multitude nombreuse. Et à ce moment-là, Abraham va tenir compte de ce que lui a dit Abraham, ce que lui a dit Sarah, pardon, et il va lui préparer une gourde d'eau, un morceau de pain, et il va la chasser, il va la renvoyer. Ce n'est plus le même mot qui est utilisé à ce moment-là, et elle va partir dans le désert. Autant la première fois, elle a fui dans le désert, autant la seconde fois, elle y est allée dans un endroit qu'elle connaît, comme si c'était un peu un refuge. Mais elle part avec son fils. Ce qui est étonnant aussi dans le texte, c'est que son fils, qui a 14 ans, eh bien, il redevient dans le récit comme un enfant tout petit, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de vivre par lui-même. Et elle s'en alla errer dans le désert de Beersheba, dit le texte. Deux verbes qui sont reliés en une seule action. Et ici, le désert devient une destination qu'elle a choisie. Mais, rapidement, l'épuisement de l'eau provoque presque simultanément le geste de désespoir. Et le texte dit, elle jeta l'enfant, mais son discernement demeure quand même, parce qu'elle jette l'enfant, mais près d'un des arbustes, sous l'un des arbustes, celui qui peut donner ombre et protection. Le fait de jeter ne signifie pas qu'elle se désintéresse de l'adolescent, redevenu enfant dans cette scène, mais qu'elle est à la limite de ce qu'elle peut faire en tant que maman donneuse de vie. Ce verset 16 du chapitre 21 est le point culminant de la détresse d'Agar. Et le lecteur a accès à cette détresse en entendant le désespoir du personnage. Elle disait « Que je n'assiste pas à la mort de l'enfant ». Donc c'est pour ça qu'elle prend cette distance-là. Et le texte hébreu utilise le verbe « voir » que je ne vois pas quand meurt l'enfant, dit le texte. Ça exprime bien la limite du supportable par son refus de voir. Le lecteur est amené à ressentir en lui-même ce que Agar éprouve, entrant en empathie avec elle. Et Agar, maman, agit encore en usant de son dernier recours. Elle éleva la voix et pleura. Cette expression désigne l'immense peine, la supplique et aussi la remise totale à autre que soi. C'est le signe de la confiance. C'est le seul lien à la vie qui demeure quand les actions humaines sont épuisées. Quelle est la réponse de Dieu par l'ange du Seigneur? Elle éleva la voix et on a la réponse. Dieu entendit la voix du garçon comme un écho, c'est-à-dire le texte ne dit pas « Dieu entendit la demande ou la voix de Agar », non. Dieu entendit la voix du garçon. Le parallélisme vient marquer la relation qui existe vraiment entre Agar et Dieu. Éleva et entendit. Même si nous, on est surpris par le fait que c'est entendit la voix du garçon. le narrateur a compris que la prière d'Agar concerne son enfant et non elle-même. Et dans une sorte de reformulation, il précise la véritable préoccupation de sa mère. Elle prie pour son fils. Tandis que le deuxième verbe, qui est pleura, porte bien sur elle-même et sur son chagrin. Donc on a les deux réalités. Et Dieu voit bien la chose. C'est-à-dire, il entend la voix du garçon, parce qu'elle prie pour le garçon, mais il voit aussi la peine immense de Agar et elle pleura. La simplicité de la question qui est posée par l'ange du Seigneur est très touchante, puisque l'ange du Seigneur lui dit « Qu'as-tu, Agar ?» Voilà, cette simplicité-là montre bien cette familiarité. Il y a une relation directe entre le Seigneur, l'ange du Seigneur et Agar. Et il dit aussi « Ne crains pas ». C'est une parole de consolation. Le lecteur, en effet, va traduire la question « Mais pourquoi tu es inquiète ? Ne sais-tu pas que ?» Sous-entendu, ne sais-tu pas que je suis là ? Pourquoi tu as à t'inquiéter ? Elle est dans une épreuve terrible et cette voix est une voix de consolation. Ne sais-tu pas que ? Et la suite explicite cette question en double fond. Par la réponse apportée à l'angoisse maternelle, « Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix du jeune garçon là où il est. » Là où il est aussi, c'est important, parce que Agar pourrait être un peu culpabilisée d'avoir pris de la distance par rapport à lui, de l'avoir mis sous un buisson, et puis elle, pas tout à fait à côté, parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir, c'était insupportable. Et l'ange du Seigneur lui dit, mais t'inquiète pas, j'ai entendu la voix du garçon là où il est. Donc là où il est, je suis aussi, même si toi, tu as pris une distance géographique par rapport à ce qui se passe. Donc là où il est a une double résonance. C'est une confirmation du fait qu'il s'agit bien de ce garçon-là, mais en même temps, Agar, ne t'inquiète pas, j'ai pris le relais, moi, l'ange du Seigneur, j'ai pris le relais et je vais m'occuper de cet enfant. On voit ici, on est ici, le lecteur, on est témoin de l'extrême délicatesse divine. Et cette délicatesse divine continue parce que l'ange du Seigneur lui fit apercevoir un puits rempli d'eau. Ce puits n'a pas paru là tout d'un coup. Ce puits était déjà là. Mais Agar n'était pas en capacité de le voir. Et donc, Dieu lui ouvrit les yeux. C'est-à-dire, Dieu va lui permettre de voir ce que sa détresse ne lui permettait plus de voir ou bien ne lui permettait pas de voir. Et le texte continue en disant « Dieu fut avec le garçon. Il grandit, il habita au désert, il était un tireur d'arc. » Donc, ici, on voit que Dieu a pris le relais de la responsabilité d'Agar. C'est plus elle qui va l'élever en direct. Elle passe le relais. Elle ne va juste s'occuper que de lui trouver une femme du pays d'Égypte. Donc, on a ici un Dieu de relation. Si dans un premier temps, le Dieu d'Agar distingue les rôles et les fonctions, voire même sépare les personnes, c'est pour donner à chacun la place qui est la sienne et établir en conséquence des relations ajustées. Distinguer pour mieux unir et son œuvre, et l'œuvre de Dieu. Agar, qui avait accédé à son existence propre en qualité de servante en relation avec Sarai, est ici reconnue comme mère d'Ismaël, responsable de la vie de son fils, en relation étroite avec lui et non à l'écart. Elle lui dit, tiens, l'ange du Seigneur lui dit, tiens-le par la main, c'est l'injonction qui lui est faite. Et elle reçoit le projet de Dieu, en même temps, la confirmation, car je ferai de lui une grande nation. Donc, tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Donc, le relais est passé et le destin d'Agar reste lié à celui de son fils. Qu'est-ce qu'on va retenir de ces deux passages, de ces deux chapitres de la Genèse ? C'est comment Dieu peut accompagner mais je vais enlever le peu, comment Dieu accompagne chaque personne. C'est-à-dire qu'il va rentrer en relation personnelle, si on le veut bien, et à ce moment-là, par l'écoute, par la considération de la personne, il va lui permettre de faire un chemin de libération, un chemin personnel, pour que la personne, quelle qu'elle soit et telle qu'elle est, trouve d'abord sa propre identité, sa propre place et sa juste place, et à ce moment-là, puisse établir ses choix de manière libre, de manière ajustée, pour rester en relation avec les autres, puisque c'est Dieu qui va nous permettre d'avoir la relation la plus ajustée possible avec les personnes.
Agar, une femme libérée par Dieu, vous venez de suivre la conférence de Maïté Iratsoki, licenciée en théologie, conférence enregistrée le 2 mars 2024 lors des samedis de l'abbaye de Belloc proposée par Radio Lapourdi et la communauté de Belloc.